ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Notre-Dame de Luxembourg,
priez pour nous.
Nos saints anges gardiens,
priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Petite introduction à ce sujet de l'oraison. Aimer Dieu de tout son cœur, observer sa loi jour après jour. Voilà, au milieu d'un monde qui nous tire plutôt vers le bas que vers le haut. Voilà, porter notre croix quotidienne en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Accroître notre devoir d'État, en définitive, faire notre salut et nous sanctifier n'est pas une chose qui est facile. Et nous nous en rendons compte tous les jours, par nous-mêmes, eh bien, nous ne sommes pas grand-chose, petite créature du bon Dieu, et à chaque instant, nous faisons l'expérience de notre faiblesse, par nos chutes, nos péchés. Notre Seigneur disait à ses apôtres dans le dernier repas qu'il a pris avec eux, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pour bien comprendre l'importance de l'oraison, il faut se rappeler tout d'abord cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien pour votre salut, rien pour votre sanctification. La source, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ et nous devons nous appuyer sur lui si nous voulons mener une vie vraiment chrétienne. Voilà, faire notre salut, triompher des tentations et nous sanctifier. Alors, il existe deux grands moyens de nous appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ. De venir puiser, eh bien, la grâce à sa source, notre Seigneur Jésus-Christ. Est mort sur la croix, il a donné sa vie pour nous, et la croix est vraiment la source de toutes les grâces, de tous les secours dont nous avons besoin pour nous sauver. Mais ces grâces, elles nous sont données à travers deux choses. La première chose, ce sont les sacrements. Les sacrements. La grâce nous vient par les sacrements. C'est-à-dire... que si nous voulons nous sanctifier, il va falloir nous approcher régulièrement des sacrements. Quelqu'un qui ne viendrait pas se confesser régulièrement de ses fautes, quelqu'un qui ne s'approcherait pas régulièrement de la communion, eh bien n'aurait pas les grâces nécessaires pour faire son salut, pour se sanctifier. Notre Seigneur disait en particulier dans l'Évangile cette phrase très belle à propos de la communion. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Notre Seigneur demeure en nous et nous en lui par la communion. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » C'est-à-dire qu'il est sûr de son salut. Celui qui communie en de bonnes dispositions, régulièrement et sûr de son salut. Je le ressusciterai au dernier jour. Importance de la communion. Et au contraire, une autre parole de notre Seigneur, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, par la communion, vous n'aurez pas la vie en vous, la vie de la grâce, sans laquelle nous ne pouvons pas être sauvés. Nous voyons comment notre Seigneur insiste sur le fait que nous devons nous nourrir, voilà, de lui-même. Alors un grand saint de notre ordre, Padre Pio, du siècle dernier, eh bien, avait bien compris l'importance des sacrements. Tous les saints en général avaient bien compris l'importance des sacrements. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas abuser des sacrements. Ils s'approchaient très régulièrement de la confession. Padre Pio, c'était tous les jours. Hein. Pourtant, il était déjà bien avancé dans la sainteté, Et puis aussi, bien sûr, la communion. Padre Pio, vous le savez, a été beaucoup persécuté parce qu'on l'avait beaucoup calomnié. Et en conséquence, eh bien, par ses supérieurs, même par le Saint-Office, qui était très méfiant par rapport à Padre Pio, eh bien, il a eu des interdictions, comme l'interdiction de dire la messe en public, voilà, l'interdiction de confesser les fidèles. Et tout cela le mortifiait beaucoup, mais il était prêt à tout supporter et il disait, on peut me priver de tout ce qu'on veut, pourvu qu'on ne me prive pas de communier, car cela j'en mourrai. Il vivait de la communion, il vivait de cette union à notre Seigneur qui se fait à travers les sacrements. Pour prendre une comparaison, pour bien voir comment les sacrements sont pour nous le moyen de mener une bonne vie chrétienne, de mener le combat spirituel, les combats de la vie pour le bien, eh bien, je prendrai une comparaison tirée de la vie militaire. Un soldat qui négligerait de soigner ses blessures, c'est ce qu'on fait dans la confession, un soldat qui négligerait de se nourrir, eh bien, n'aurait plus de force pour le combat. C'est pareil. Un chrétien qui ne s'approche pas de la communion, eh bien, n'aurait plus de force pour le combat spirituel. On voit l'importance des sacrements. Voilà donc la première façon pour nous, de nous sanctifier, de mener une bonne vie chrétienne ici-bas, d'assurer notre salut, c'est de nous approcher très régulièrement des sacrements. Et il y a un deuxième moyen de s'appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ, de s'ancrer en lui, c'est justement la prière. La prière. Notre Seigneur disait à ses apôtres, vous savez, la nuit, la veille d'aller mourir sur la croix, il leur disait au jardin des Oliviers, veillez et priez. Priez pour ne pas entrer en tentation et surtout pour ne pas y succomber. Et que se passe-t-il? Les apôtres, au lieu de prier, se sont assoupis, se sont endormis. Ils ont négligé la prière. Résultat, au moment où ils ont besoin de la grâce, elle leur fait défaut et ils abandonnent notre Seigneur Jésus-Christ qui va aller tout seul au supplice. Saint Pierre lui-même, qui avait dit peu de temps avant à la dernière scène à notre Seigneur, « Quand bien même tout le monde vous abandonnerait, moi je ne vous abandonnerai pas », eh bien, Saint Pierre tombe lui aussi. Il abandonne notre Seigneur et il le renie par trois fois. « Je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme. » Voilà le résultat d'une âme qui a négligé de s'appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ par la prière. Alors retenons cette vérité que nous enseigne Saint Jean Chrysostome, voilà, un des grands pères de l'Église. Sans le secours de la prière, il est impossible de mener une vie chrétienne. Il est impossible de mener une vie chrétienne. Notre salut dépendra en grande partie de l'importance que nous aurons su donner à la prière. Et saint Alphonse de Ligori est aussi un docteur de l'Église qui a écrit un livre, justement, Le grand moyen de la prière. Et bien, saint Alphonse de Ligori nous dit d'une façon encore beaucoup plus tranchée, beaucoup plus nette, « Celui qui prie se sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne certainement. » Se damne certainement. Notre salut est en grande partie attaché à l'importance que nous donnerons dans notre vie à la prière. Alors, après cette petite introduction, j'en viens maintenant à l'oraison. L'oraison est une sorte de prière. L'oraison, qu'est-ce que c'est? L'oraison, comment la pratiquer? Nous allons essayer de répondre à cette question. Alors, dans la prière, on distingue la prière vocale et la prière mentale. Des mots compliqués pour dire une chose très simple. Prière vocale, c'est la prière que l'on prononce, voilà, de nos lèvres, avec des mots. Et la prière mentale, c'est la prière de l'âme, voilà, du cœur. Vous comprenez évidemment qu'une prière purement vocale, qui ne serait pas accompagnée en même temps d'une prière mentale, c'est-à-dire de l'âme, n'aurait pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est comme si vous parliez à quelqu'un sans le regarder, sans penser à lui. Voilà. Mon Dieu ne va pas tenir compte de cette prière. Toute prière vocale doit donc être accompagnée d'une prière mentale intérieure que saint Jean Damascène définit ainsi. C'est une élévation de l'âme vers Dieu. Si notre prière vocale n'est pas accompagnée d'une élévation de notre âme vers Dieu, alors elle ne vaudra pas grand-chose. Mais si la prière vocale va toujours être accompagnée de prière mentale, l'inverse n'est pas nécessaire. Il y a aussi ce qu'on appelle une prière mentale de l'âme qui ne nécessite aucunement la prière vocale. Voilà. Et notre Seigneur lui-même, dans l'Évangile, nous le fait penser puisqu'il nous dit « Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. » Voilà. Comme font les païens qui croient être exaucés à force de multiplier les paroles. Voilà. Notre Seigneur nous incite donc à prier davantage avec notre cœur, avec le fond de notre âme. C'est cela qui compte dans la prière, prier de toute son âme, de tout son cœur. Il faut veiller, par conséquent, quand on prie, à la profondeur de notre prière. Sinon, eh bien, celle-ci risque fortement de rester très superficielle ou très formaliste. Voilà, il faut faire sa prière du matin, je la fais, alors je prends mon livre et puis je dis. Et puis, mais finalement, est-ce que j'ai mis mon âme? Est-ce que j'ai mis mon cœur dans ma prière? Ah, voilà la grande question qu'il faut se poser. C'est pourquoi il est bon de temps en temps, voyez, de fermer son livre, de fermer ses prières habituelles, ou toutes écrites ou toutes faites, pour prier le bon Dieu d'une façon plus personnelle, plus intime, et aussi en y consacrant peut-être un peu plus de temps. Et c'est ce qu'on appelle faire oraison. Faire oraison. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, qui est la grande maîtresse de l'oraison, vous savez qu'elle a réformé le Carmel en Espagne au XVIe siècle, et justement, elle a fondé la réforme de son ordre sur la pratique de l'oraison mentale. Redonner à l'oraison mentale son importance. Voilà. Eh bien, elle disait, l'oraison mentale n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Vous voyez, un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. C'est une prière, oui, une prière, mais une prière profonde et une prière, dans une certaine mesure au moins, prolongée. Pour que la prière puisse avoir de la profondeur, il est bien nécessaire qu'elle prenne un certain temps. Voilà. Et Padre Pio, voilà, Padre Pio définissait aussi l'oraison comme tout simplement un cœur à cœur avec Dieu. Quand on a un ami, on aime bien être en sa présence, on aime bien lui parler et le faire avec simplicité et on aime à rester avec lui et c'est toujours quand on se sépare que c'est plus difficile. Eh bien, application avec Dieu. Dieu est notre meilleur ami, il est notre Père et nous pouvons nous entretenir avec lui cœur à cœur. Et c'est cela, faire oraison, tout simplement. Alors, comment faire ce cœur à cœur? Tout d'abord, première chose importante, nous rappeler ce que nous oublions si facilement, nous rappeler la présence de Dieu, nous rappeler la présence de Dieu. Dieu est naturellement présent partout, partout dans le monde, parce qu'il soutient toutes les créatures dans l'existence. Aucune création ne pourrait exister, nous ne pourrions pas avoir la moindre bonne pensée si le bon Dieu ne nous l'a donné. Et nous oublions complètement cela. Si nous étions bien établis dans l'humilité, nous rappelions notre néant de créature, on ne pourrait pas oublier le bon Dieu. On ne pourrait pas oublier le bon Dieu. On dépend de lui à chaque instant, complètement. Saint Paul disait, en lui nous nous mouvons, en lui nous sommes, en lui nous sommes. Dieu, comme disent certains auteurs spirituels, est plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes. Dieu est plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes. Et cela, c'est vrai dans l'ordre de la nature, de la création. Mais Dieu est aussi présent dans l'âme du chrétien qui l'aime, qui est en état de grâce. Eh bien, il est présent d'une façon supérieure, une présence surnaturelle. Voilà. Et notre Seigneur le disait explicitement à ses apôtres à la dernière scène, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est-à-dire mon enseignement, mes commandements, il les observera. Mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Il ne dit pas ça de n'importe qui, il dit ça des chrétiens qui l'aiment. Si quelqu'un m'aime. Donc ça, ce n'est pas commun à toutes les créatures ou à tous les hommes, c'est commun aux chrétiens qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cœur de ce chrétien, la Trinité Sainte habite, voilà, fait sa demeure. Et il y a une bienheureuse carmélite de Dijon, voilà, qui est morte au siècle dernier, en 1906, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, voilà, qui justement avait concentré toute sa vie spirituelle sur cette simple pensée de l'inhabitation de la très sainte Trinité dans son âme. Revenir à cette grande vérité, revenir à cette grande vérité. Une fois qu'on a pensé à cette présence de Dieu, il faut maintenant établir le contact avec lui. Voilà. Établir le contact, entrer en contact avec Dieu. Et cela se fait, nous disent les auteurs spirituels, par tout simplement l'exercice de trois vertus. J'ai encore employé un mot peut-être un peu compliqué, mais pour une chose assez simple, les trois vertus théologales. Qu'est-ce que cela veut dire? Les vertus théologales, ce sont les vertus qui justement atteignent Dieu directement et en lui-même. Et ce sont, vous les connaissez, la foi, l'espérance et la charité. La foi, c'est « je crois en Dieu » et en tout ce que Dieu me révèle à travers son Fils, à travers son Église. L'espérance, c'est « j'espère, je désire le ciel, la possession de Dieu dans l'éternité et dès ici-bas par l'état de grâce, et je l'espère par le secours de Dieu lui-même qu'il va me donner. Je ne compte pas sur mes forces à moi, mais sur lui. » Et ensuite, la charité, c'est « j'aime Dieu ». Et c'est cela le plus beau, le plus fort. Saint Paul, dans le 13e chapitre de sa première épître aux Corinthiens, où il développe vraiment toutes les merveilles de la charité, et bien nous dit qu'il y a trois vertus, la foi, l'espérance, la charité, mais la foi et l'espérance disparaîtront un jour. Seule la charité demeurera pour l'éternité. C'est la plus grande des trois, c'est celle par laquelle nous aimons Dieu et nous sommes unis à lui. Alors, l'oraison, c'est cela. C'est un cœur à cœur avec Dieu qui vit en notre âme par l'exercice des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. C'est comme cela que de grands moines comme Dom Porion, qui était un chartreux, dans son livre « Amour et silence », où justement il explique ce qu'est l'oraison. Et bien voilà comment il l'explique. Voilà aussi comment Don Chotard, des trappistes, dans son livre « L'âme de tout apostolat », explique comment il faut faire oraison. Et il le résume en ces trois mots latins, « Video, je vois, je contemple Dieu par la foi ». Ensuite, « Sit sio, j'ai soif, je veux être uni à Dieu ». Et enfin, Volo, voilà, je veux ce que Dieu veut, c'est cela surtout, la charité. Et pour bien le manifester, je voudrais vous rappeler cette belle prière que l'ange de Fatima a enseignée aux trois enfants. Quelle prière leur a-t-il appris? Il leur a expliqué, eh bien, qu'il fallait de temps en temps se prosterner la face contre terre et réciter cette prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Voyez, l'ange ne leur apprend pas une prière compliquée, il leur apprend à faire des actes de foi, d'espérance, de charité, puis d'adoration. Voilà. Et bien dans ces actes-là, tout simple, se trouve essentiellement la prière, et c'est par la foi, l'espérance, la charité qu'on s'unit à Dieu de plus en plus étroitement. Et les enfants, à force de répéter cette prière, et ils le faisaient très souvent, ils racontaient qu'à force de le faire, ils avaient même mal au dos, tellement ils se prosternaient contre le sol souvent, et bien à force de répéter cette prière, ils sont vraiment devenus des âmes intérieures et des âmes saintes. Voilà. Et bien, quelqu'un qui pratique l'oraison, qui cherche à entrer en contact avec Dieu par les trois vertus théologales et par ce simple cœur à cœur avec Dieu qu'il possède en lui, eh bien, cette âme aussi deviendra sainte. On verra dans la dernière partie les fruits, justement, de l'oraison. Alors maintenant, je voudrais évoquer aussi deux formes un peu plus particulières que peut prendre l'oraison. La première forme, c'est ce qu'on appelle la méditation. La méditation, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, tout simplement, à réfléchir sur des vérités de la foi. Dans quel but? Pour s'en imprégner profondément et aussi pour s'exciter à une espérance plus vive et à une charité plus ardente. Alors on peut se servir pour cela d'un livre, surtout au début, hein, si on n'est pas très inspiré. On peut s'aider d'un livre, mais il ne faut pas que cette lecture reste une simple lecture. La méditation, eh bien, doit être un entretien avec notre Seigneur, avec Dieu. S'il n'y a pas cet entretien, il n'y a pas oraison. Il y aura lecture, mais il n'y aura pas oraison. Donc, voilà. On peut s'aider d'un livre et puis aussi choisir différents sujets, soit selon nos besoins personnels, soit selon aussi notre dévotion. On peut être attiré plus par tel ou tel mystère de notre foi, et dans ce cas, il faut s'en servir de cette attirance. Si on est plus attiré par la crèche, eh bien, on va regarder la crèche, l'incarnation du Fils de Dieu. Si on est plus attiré par la croix, eh bien, on va surtout se fixer sur la croix, Dieu qui donne sa vie pour nous. C'est pas rien, cela. Donc, différents sujets, cela peut être aussi, et ça peut être davantage bien pour les personnes qui ont besoin aussi de se mettre en garde par rapport au péché, méditer sur les fins dernières, le ciel, l'enfer, le purgatoire, pour s'exciter à sortir du péché. On peut méditer sur la résurrection, sur l'Eucharistie, etc. Différents sujets, selon nos besoins ou notre dévotion. Mais il importe toujours que ces considérations, ces réflexions qu'on va faire sur ces mystères aboutissent à ce qu'on appelle, dans un sens large, des affections, c'est-à-dire justement les actes d'espérance ou de charité. Donc ce sera, par exemple, supplier le bon Dieu de pardonner nos péchés. Ce sera un amour de contrition, de regret de ses fautes. Ce sera un amour de reconnaissance, merci mon Dieu. Ce sera un amour de louange, on va louer le bon Dieu, etc. Et finalement, à la fin de notre méditation, aboutir à ce qu'on appelle une résolution. Résolution pour, eh bien, amender sa vie. Si on a besoin de sortir du péché, par exemple, eh bien, je prends la résolution de faire une bonne confession. Ou si on a besoin de, eh bien, d'être plus généreux dans le devoir d'État, eh bien, je prends la résolution d'être plus généreux, voilà, dans telle ou telle pratique de mon devoir où je sais que j'ai du mal à être généreux, voyez, parce que la méditation doit avoir pour but cela, davantage mieux nous conformer au final à la volonté de Dieu sur nous et nous sanctifier. Sinon notre méditation risque de rester, eh bien, stérile. Alors, comme j'ai parlé un petit peu des livres, je vous proposerai, voyez, tout simplement, quel livre peut-on utiliser pour la méditation? Eh bien, en tout premier lieu, les évangiles, la Sainte Écriture, hein, les épîtres de saint Paul, de saint Jean, etc. Ou encore les textes liturgiques, les textes du missel. C'est surtout de cela dont le chrétien doit se nourrir. C'est cela ce que l'Église lui donne. Ou alors, on pourra aussi se servir eh bien, de livres de piété. Il en existe beaucoup. On peut penser en particulier à l'Imitation de Jésus-Christ, qui a eu beaucoup de succès dans les siècles passés. Voilà. Ou alors, il existe aussi des livres de méditation. Voilà, comme au couvent, vous voyez, nous avons deux temps d'oraison par jour, le matin et le soir, deux fois trois quarts d'heure. Et, eh bien, nous avons une lecture avant, une lecture d'une méditation. Alors, le matin, c'est sur la Passion de notre Seigneur. Donc, c'est un livre qui s'intitule « Pensée et affection sur la Passion de Jésus-Christ » par un père capucin, le révérend père Gaëtan de Bergame, un livre qu'aimait beaucoup Padre Pio. Et puis, le soir, nous méditons sur les méditations ascétiques du révérend père Joseph de Dreux, qui est aussi un capucin. C'est sur l'Évangile en général. Mais il y a aussi d'autres livres, et on pense en particulier ces dernières années, sont sortis de nombreux fascicules qui ont été faits par l'abbé Troadec de la Fraternité Saint-Pédis, qui était donc supérieur du séminaire de Flavigny jusqu'à l'année dernière, et qui sont des méditations surtout fondées sur la liturgie, voilà, au quotidien. Voilà un peu pour la méditation. Et maintenant, il y a une deuxième façon, plus parfaite encore, de faire oraison, et qu'on appelle la contemplation. La contemplation est une forme de prière, une forme d'oraison plus simple, mais comme je vous disais, aussi plus parfaite. Elle consiste dans un regard profond et affectueux, sur un mystère de notre foi, sans raisonnement particulier, sans réflexion compliquée. Voilà un peu comment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'expliquait. C'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour qui dilate l'âme et l'unit à Dieu. Alors, un exemple tiré de la vie de saint François, notre fondateur. Saint François, dans sa conversion, vient pratiquer la méditation, c'est certain, mais très vite, il est passé à cette forme de prière qu'on appelle la contemplation. Et il passait de longs temps dans la solitude, dans des endroits retirés, à contempler la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Contempler le crucifix, tout simplement. Contempler le crucifix, ce Dieu qui donne sa vie par amour pour nous. Voilà. Rester en admiration devant la profondeur de ce mystère. Et cette méditation a été pour lui ensuite la source de nombreuses grâces. Voilà, on le verra. Et dans les premiers temps aussi de sa conversion, un jour, qui justement, vous savez que saint François avait abandonné sa vie frivole. Il avait abandonné ses riches habits, il avait 25 ans, et puis il s'était revêtu d'un sac et d'une corde, commençait à mener une vie complètement opposée à ce qu'il avait fait jusqu'ici. Et un habitant d'Assise, Bernard de Quintaval, se dit « soit c'est un fou, soit c'est un saint. Alors je voudrais en avoir le cœur net. » Et il l'invite chez lui. Et là, il voulait les pieds pour voir un peu son comportement. Alors la nuit arrive et alors ils étaient dans la même chambre. Alors il y a saint François pour justement ne pas faire étalage de sa sainteté et de ses vertus. Et bien, sans prière du soir, hop, il se jette au lit et il se met à ronfler. Faire croire qu'il dormait. Et Bernard de Quintaval fait la même chose. Il se jette au lit et il se met à ronfler. Et c'est saint François qui s'est fait avoir dans ce petit jeu. Parce que saint François descend du lit quand il pense que Bernard dort. Et là, il se met en prière. Et quelle a été la prière de saint François? Eh bien, jusqu'à matine, il n'a pas cessé de répéter à genoux, « Mon Dieu est mon tout. Mon Dieu est mon tout. Mon Dieu est mon tout. » Il était captivé par un mystère, je ne sais pas ce qu'il contemplait, si c'était La crèche, c'était la croix, mais il était en admiration et il ne cessait de dire son admiration et son amour à Dieu par ce simple mot « Mon Dieu et mon tout ». Et c'était, voilà, de la simple contemplation, la simple contemplation. Alors, frère Bernard, eh bien, il est devenu franciscain suite à cela. C'est le premier compagnon de saint François. Donc, quand une âme, vous voyez, s'est déjà exercée un certain temps à la méditation, qu'elle a bien approfondi les mystères de sa foi et qu'elle cherche Dieu dans la prière, le bon Dieu, en fonction de sa générosité, va l'appeler plus ou moins vite à cet état justement de contemplation. Et de plus en plus, quand cette âme se mettra en prière, elle aura une sorte de dégoût pour tout ce qui est réflexion compliquée, voilà, et elle sentira simplement le besoin d'être en face de son Dieu et de lui dire son amour, voilà. Et c'est cela la contemplation, ce cœur à cœur simple dans la foi avec Dieu. Alors, c'est un des points importants de la vie spirituelle. Saint Jean de la Croix, qui est un grand directeur d'âme, voilà, eh bien, expliquer, il faut faire attention, parce que bien souvent, quand on arrive à cet état où justement la méditation devient compliquée, si on ne sait pas, il faut s'arrêter, eh bien on risque de forcer, de vouloir à tout prix méditer, alors que le bon Dieu nous rend la méditation impossible, et nous appelle à une forme de prière plus simple, ce simple regard amoureux, voilà, sur lui. Donc il ne faut pas forcer, quand on est dans cet état-là, si on n'arrive pas, on n'est pas en état de méditer, il ne faut pas le faire, parce que ça devient difficile, laborieux, il faut tout simplement prier d'une façon plus simple, épancher son cœur en Dieu, se reposer en Dieu. Très belle histoire qui est racontée dans la vie du curé d'Ars. Un jour, le saint curé d'Ars rentre dans l'église, son village, et il remarque pour la énième fois un vieux paysan qui était là, au fond de l'église, assis en face du tabernacle. Et il lui demande, un peu interloqué, « Mais qu'est-ce que vous lui dites au bon Dieu ?» Et le paysan lui répond, « Je ne lui dis rien. Je l'avise et il m'avise. Je l'avise et il m'avise. Je le contemple et lui, il me voit. Il me voit. » Ce cœur à cœur tout simple, qui ne, sans mots, sans mots. C'était, voilà, ce paysan qui était fidèle à venir devant le tabernacle, il en était à cet état de contemplation habituelle et facile dans lequel il passait son temps. Saint Jean de la Croix nous dit « La plus belle prière, c'est un silence amoureux. » Un silence amoureux. Et on comprend pourquoi, eh bien, Dom Porion a donné ce titre à son livre sur l'oraison « Amour et silence. » Amour et silence. Et cette contemplation, eh bien, nourrit notre âme encore bien plus que la méditation. Voilà. Mais c'est d'une façon plus subtile et qui est presque imperceptible au début. Alors, une petite comparaison pour bien manifester cette différence entre la méditation et la contemplation. Eh bien, quand on contemple un paysage, il y a deux façons de le contempler. Soit on va regarder le détail du paysage, voilà, tac, 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 tac. Ça, c'est un petit peu l'image de la méditation. Voilà, on scrute un peu les vérités de notre foi. Soit on regarde l'ensemble du paysage et on reste en émerveillement, en admiration devant l'ensemble du tableau. Ça nous suffit, et ça nous nourrit beaucoup plus, on est encore beaucoup plus dans l'admiration. Ça, c'est la contemplation. Voilà un petit peu pour ces deux modes que peut prendre l'oraison. Maintenant, une chose très importante, je voudrais insister sur les deux conditions essentielles pour une bonne oraison. Première condition nécessaire, c'est ce qu'on appelle le recueillement. Quand tu voudras prier, nous dit notre Seigneur, dans le sermon sur la montagne, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi et prie ton Père dans le secret. Notre Seigneur nous invite, si nous voulons prier, nous entretenir avec Dieu, à rentrer dans notre chambre et rechercher la solitude, rechercher le recueillement, rechercher le silence. Voilà. Lui-même, eh bien, dans l'Évangile, il s'éloignait régulièrement de la foule pour aller prier, soit dans le désert, soit sur la montagne. Il priait habituellement la nuit, quand les bruits du jour avaient cessé. Il recherche ce recueillement, cette solitude, ce silence, pour s'entretenir avec son Père. Eh bien, il nous faut aussi rechercher ces choses-là, autant que nous le pouvons, bien sûr, en fonction de notre devoir d'État. Si un jour ou l'autre, le recueillement, les conditions de recueillement ne sont pas forcément idéales, le bon Dieu donnera des grâces spéciales pour qu'on puisse le prier dans ces circonstances un peu plus difficiles. On disait justement de saint François que pour lui, il n'y avait plus aucune difficulté à prier, même au milieu d'une foule trépidante, parce qu'il avait fait dans son cœur une cellule dans laquelle il se retirait. Il n'avait pas besoin de se retirer dans une cellule extérieure, il se retirait dans une cellule intérieure, qui faisait qu'il arrivait à rester recueilli, même au milieu des bruits du monde. Donc il nous faut veiller au silence extérieur autant que possible, mais aussi, très important, au silence intérieur. Voilà. Parce que, eh bien, on va être occupé par des soucis, par des pensées, des imaginations de toutes sortes. Voilà. Eh bien, il faut essayer de faire taire tous ces bruits intérieurs pour pouvoir s'entretenir avec Dieu. Et ça demande un certain travail sur soi. Et on verra un peu plus loin ce que cela exige. Mais voyez déjà, dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, toute cette abondance d'images que l'on reçoit par la télévision, par Internet, par toutes sortes de choses, voyez toutes ces images, eh bien, au moment de la prière, notre tête sera pleine d'images. Comment faire pour prier si notre tête est pleine d'images? On aura du mal, voyez. Ou encore, tous les bruits du monde, je pense pas en particulier aux musiques, voyez, aux musiques très excentriques, très mouvementées, très bruyantes, eh bien cela, ça reste aussi dans l'âme. Et quand on va vouloir se mettre en prière, ça va nous suivre. Et la prière sera rendue impossible. Donc il faut travailler, si nous voulons avoir une prière profonde, à faire ce silence extérieur et intérieur. Et même habituellement, voyez, autant que possible, à rester dans le calme, à rester paisible. Et quand on est généreux pour travailler à ce recueillement peut atteindre des profondeurs très très profondes, très 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 grandes. Et là, je vous raconterai une histoire de saint François qui est assez drôle. Donc c'était à la fin de sa vie, il était très fatigué, on le tirait à dos d'âne, il était tiré par un frère. Et il se rendait à un couvent et il devait pour cela traverser une ville en Italie, Borgo San Sepolcro, Bourg Saint-Sépulcre. Et saint François était en prière sur le dos de l'âne. Il était en prière et voilà qu'il traverse la ville et il y a beaucoup d'Italiens, d'Italiennes qui s'approchent et qui viennent, qui le touchent, qui le secouent, qui sont tout contents parce que saint François avait déjà sa réputation de sainteté. Donc les Italiens venaient le toucher, le secouer par dévotion et il finit par traverser la ville. Et en sortant de la ville, saint François revient un peu à lui et il demande au frère qui le traîne: mon frère, est-ce qu'on arrive bientôt à Bourg-Saint-Sépulcre? Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait traversé la ville. Parce que, eh bien, quand le recueillement devient très 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 profond, eh bien, l'âme peut tomber dans ce qu'on appelle l'extase. L'extase, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui peut me paraître extraordinaire, mais c'est quand le recueillement est tellement profond que l'âme, eh bien, n'est plus sollicitée par ses sens. Donc elle n'entend plus les bruits. On voit ça aussi chez sainte Bernadette. Voyez, sainte Bernadette qui était en extase devant la Sainte Vierge à la grotte de Lourdes, et on lui avait mis une flamme sous les doigts et elle ne sentait pas la flamme. Son âme était trop profonde en elle pour qu'elle puisse sentir la chaleur de la flamme. Donc, première disposition importante pour nous, rechercher autant que possible. Pour Dieu ne demande pas l'impossible, mais il nous demande de faire autant que possible, rechercher le recueillement. Ensuite, deuxième condition importante, c'est le détachement. En effet, dans la prière, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de donner son cœur tout entier à Dieu. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est ça qu'on essaye de faire dans l'oraison en définitive. Mais si notre cœur est attaché à une multitude d'objets, par des affections bien sûr désordonnées, parce que les affections qui sont voulues par le bon Dieu, eh bien, n'empêcheront pas la prière. Mais si ce sont des affections désordonnées, je suis trop attaché à ceci, à cela, eh bien, au moment de la prière, il sera très difficile de ramener son cœur pour pouvoir le donner à Dieu. Il est déjà attaché à une multitude de choses. Le père Matteo Crowley, un grand apôtre du Sacré-Cœur au début du XXe siècle, disait « Ne donnez pas à Jésus un cœur en miettes ». C'est un peu cela qu'on fait quand on veut prier alors qu'on est attaché à plein de choses de façon désordonnée. Et la bienheureuse Angèle de Foligno, qui est une mystique franciscaine, disait « La loi de l'oraison, c'est l'unité. Dieu exige la totalité de l'homme et non une partie de lui. L'oraison demande le cœur tout entier. S'il s'agit de boire, de manger ou d'accomplir quoi que ce soit, il faut réserver son intérieur, pas mettre tout son cœur à dévorer un gâteau au chocolat. Mais dans l'oraison, par contre, il faut donner tout son cœur. Il faut donner tout son cœur. Saint Jean de la Croix exprime aussi la même chose en disant que pour que l'oiseau s'élève vers le ciel, il faut pas qu'il soit attaché par un fil à la terre, lui. Et il explique même que qu'on attache l'oiseau par une chaîne ou qu'on l'attache par un fil, ça ne changera pas grand-chose, il sera toujours attaché, il aura du mal, voilà, parce qu'il ne peut pas donner tout son cœur au bon Dieu. Alors par contre, si notre cœur est détaché, et bien là, notre oraison sera beaucoup plus facile. Ensuite, bien sûr, s'il y a toutes ces attaches, qu'est-ce qui va se passer au moment de l'oraison? On aura une multitude de distractions, parce qu'on va penser à ce qu'on aime. Hein. Et si notre cœur est un peu partout, notre pensée va aussi aller un peu partout. Nous aurons beaucoup de mal à repousser les distractions. Voilà pourquoi, eh bien, la pratique de l'oraison doit être accompagnée, inévitablement, de ce qu'on appelle la mortification. Il faut se détacher par la mortification. Et on voit effectivement dans toute l'histoire de l'Église que les plus grands mystiques, c'est-à-dire ceux qui avaient la vie d'oraison la plus profonde qu'on puisse imaginer, étaient aussi en général de grands ascètes. De grands ascètes. Voilà. Ils avaient vraiment un parfait contrôle de leur corps. Voilà. Et leur esprit était libre pour s'élever vers le bon Dieu. Alors bien sûr, mon Dieu ne nous demande pas à tous le même degré de mortification, hein, mais il est bien d'en avoir les mortifications et surtout de se détacher de nos affections désordonnées. Alors dans la pratique de la mortification, eh bien là, les conseils d'un directeur spirituel peuvent être utiles. Alors Saint François, lui, vous voyez, était très mortifié et il avait vraiment réduit son corps en servitude. C'est bien que celui-ci était devenu un instrument docile. Et quand saint François voulait prier, eh bien son corps n'était pas un obstacle. Voilà. Son cœur était tout à Dieu. Il appelait son corps frère âme. Voilà, il l'avait bien monté. Alors cependant, vous voyez, saint François n'était pas non plus un ange, et il lui est arrivé d'avoir des distractions. Mais on va voir à travers une histoire comment il prenait les moyens de couper ses affections désordonnées. Un jour, il a passé tout un carême à confectionner un panier en osier pendant ses temps libres. Voilà, il n'aimait pas rester oisif, saint François, il voulait toujours travailler, donc il confectionnait un panier en osier. Et voilà que pendant la récitation de l'office, son regard est attiré par le panier. Et peut-être qu'il y pense avec trop de complaisance parce qu'il a il a mis tout son cœur à le confectionner, voilà, tout ça. Et cette considération du panier l'a empêché de prier avec tout son cœur le bon Dieu. Conséquence, à la fin de la prière, Saint François a pris son panier et l'a jeté au feu. Alors qu'il avait mis tout le carême à le confectionner, voyez, pour se détacher de cette attache qu'il avait et qui l'avait empêché de donner son cœur à Dieu, eh bien, il l'a fait brûler. L'anglais saint prenait les grands moyens. Je vous recommande quand même de ne pas mettre au feu tout ce à quoi vous pensez par avoir raison, parce que vous m'en finirez plus. Mais les exemples des saints, voyez, nous édifient. Alors, il faut bien distinguer cependant ce qu'on appelle les distractions volontaires et les distractions involontaires. Quand on prie et qu'on pense à autre chose, mais on n'a pas voulu y penser, eh bien, ça n'empêche pas la prière. On est venu avec cette intention de prier Dieu, donc la prière est quand même valide aux yeux du bon Dieu, même si elle sera peut-être moins fructueuse parce qu'on est moins attentif. Il y a quand même cette intention primitive du cœur qui est de passer du temps avec le bon Dieu. Par contre, si on consent volontairement à penser à autre chose, alors là, il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de prière. J'en viens maintenant, eh bien, au fruit de l'oraison. Alors, une première remarque. Attention, c'est un écueil, à ne pas juger la qualité ou la réussite de notre oraison aux consolations ou aux désolations qu'on a pu, eh bien, éprouver pendant cet exercice. La prière a lieu dans les facultés supérieures de l'âme. C'est l'intelligence par la foi, la volonté par l'espérance, la charité qui atteignent Dieu. Mais la sensibilité est accidentelle dans l'oraison. C'est pas parce que j'ai de grands sentiments envers le bon Dieu à l'oraison que j'ai fait une excellente oraison. Et inversement, c'est pas parce que j'ai passé toute mon oraison dans la sécheresse et la peine, où j'ai rien ressenti que de sentiment envers le bon Dieu, que ma prière était nulle. Au contraire, elle a pu être très bonne. C'est d'ailleurs une chose dont le bon Dieu se sert. Au début, quand il veut attirer une âme à lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne des petites cajoleries, voilà, pour aider l'âme qui est encore faible à pratiquer l'oraison et à pratiquer la vertu. Mais quand l'âme commence à progresser, le bon Dieu retire ses consolations. Et on connaît ce qu'on appelle la sécheresse. Voilà, on se sent comme abandonné du bon Dieu. Mais c'est parce que le bon Dieu veut qu'on s'attache à lui plus purement, plus surnaturellement, et qu'on ne vive pas au niveau de la sentimentalité. Voilà. Donc c'est très important. Vous voyez, quelqu'un qui passe toute une oraison dans les consolations à satiété, et puis qui en sortant de son oraison se met en colère contre son frère, c'est pas le signe d'une bonne oraison. Par contre, une âme qui a ramé pendant toute son oraison, qui a fait péniblement dans la sécheresse des actes d'amour de Dieu, avec de bonnes résolutions de devenir meilleure, et puis qui, lorsqu'elle est persécutée, supporte patiemment cette persécution, eh bien là, par contre, c'est signe d'une bonne oraison. En effet, à quoi est-ce qu'on l'on reconnaît une bonne oraison? C'est aux fruits concrets qu'elle porte dans notre vie de tous les jours. Fruits de vertu. On va progresser dans les vertus et on va se conformer davantage à la volonté de Dieu, à la plus parfaitement. Alors, le premier effet d'une bonne oraison, duquel découlent tous les autres, c'est une union plus grande avec Dieu. Je passe du temps avec le bon Dieu en un cœur à cœur, et bien le bon Dieu finalement va faire que, au cours de ma vie, même peut-être quand je n'y penserai pas trop, le bon Dieu lui-même va me rappeler à lui, je vais me rappeler sa présence. Parce que je lui ai consacré du temps, et bien le bon Dieu ensuite lui-même me fait cette grâce de vivre davantage uni à lui. Monseigneur Poli, qui était passé à San Giovanni Rotondo, disait: en face de Padre Pio, on se sent écrasé par la présence du surnaturel. Et le père Pietro de Iscitella, qui était le père provincial du Padre Pio, disait: sa vie n'est que prière, union intime, directe, ininterrompue avec Dieu. Voyez, parce que Padre Pio était fidèle à pratiquer l'oraison, eh bien, il finissait par être tout le temps uni à Dieu. Voilà. Et c'est cela le résultat de la pratique de l'oraison bien fidèlement. Eh bien, c'est que on va être de plus en plus uni à Dieu. Le Père Lacordaire, qui a relancé l'ordre dominicain en France suite à la Révolution, avait rendu visite au curé d'Ars et en revenant de son pèlerinage, il disait « J'ai vu Dieu dans un homme. J'ai vu Dieu dans un homme. » Tellement le curé d'Ars était uni à Dieu, et bien que il était transparent, voilà, transparent de Dieu. Et en effet, plus on va donner son cœur à Dieu dans l'oraison, plus celui-ci va en prendre possession. C'est normal. Et l'âme finit, voilà, par rester toujours en sa présence et accomplir toujours plus fidèlement sa volonté. Et c'est cela, la perfection. Alors, toutes les vertus vont s'épanouir dans l'âme. Je voudrais à ce sujet vous citer une parole de saint Laurent Justinien. Dans l'oraison, nous dit-il, l'âme se purifie du péché, la charité se nourrit, la foi s'enracine, l'espérance se fortifie. L'esprit jubile, le cœur s'épure, la vérité se découvre, la tentation est vaincue. La tristesse s'enfuit, la tiédeur disparaît, la rouille des vices est consumée. C'est une rencontre qui fait jaillir de vives étincelles des désirs ardents du ciel, et dans ce feu brûle la flamme du divin amour. On voit tous les effets multiples de l'oraison, voilà, qui découlent de cette pratique. Donc, l'âme devient tout simplement sainte. Sainte, et jusqu'à pouvoir dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est bien cela le but de notre vie chrétienne, c'est de devenir d'autres Christ, le plus parfaitement possible, semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un modèle, voilà, il est sur le mur de toutes nos maisons, le crucifix. Eh bien, nous devons nous identifier de plus en plus à lui. Et c'est le fruit en particulier de la vie d'oraison. Nous voyons en particulier cela de façon éclatante et bien chez saint François. La pratique assidue de l'oraison a produit en lui ses merveilleux fruits. Et son historien Thomas de Celano nous dit « Ce n'était pas un homme de prière, c'était la prière faite homme, saint François. C'était la prière faite homme. » Le résultat, bien, c'est que son âme s'est identifiée à celle de notre Seigneur, et même par un privilège spécial, et bien son corps lui-même, puisqu'il a été stigmatisé, les deux dernières années de sa vie, il a porté dans sa chair, eh bien, les blessures du crucifié. Et nous fêterons cela dans deux jours, c'est le 17 septembre, la fête des stigmates de saint François. Alors, je citerai aussi comme exemple, eh bien, la Sainte Vierge. Voilà. Une tradition nous rapporte que la très Sainte Vierge, quand elle a eu la visite de l'ange, dans la nuit de l'Annonciation, eh bien, elle était en prière au beau milieu de la nuit. Voyez, sa prière, son oraison, a été la source de la grâce, et une grâce merveilleuse, puisque on lui a annoncé qu'elle allait devenir la mère du Fils de Dieu. Donc, eh bien, il y a ce merveilleux effet de l'oraison, notre Seigneur vit en elle. Et ensuite, il y a une conséquence. La conséquence, c'est qu'une âme qui est sainte, une âme qui est remplie de notre Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient apôtre. Une âme qui est sainte ne peut pas rester inactive. Elle veut transmettre le feu dont elle est remplie aux autres. Et c'est ce que fait la très sainte Vierge. Prenotez l'Évangile. L'ange lui annonce que sa cousine Élisabeth attend un enfant depuis 6 mois. À peine l'ange disparaît-il, que fait la Sainte Vierge? Eh bien, elle court à travers les montagnes pour aller au-devant de sa cousine Élisabeth et lui rendre le service de la charité. Et que nous dit l'Évangile? Qu'à la voix de la Sainte Vierge, Saint Jean-Baptiste et Sainte Élisabeth ont été remplis du Saint-Esprit. Voilà. La Sainte Vierge a communiqué la grâce. Elle est remplie de Dieu et elle devient apôtre. Elle apporte la grâce aux autres. Et puis il y a aussi bien sûr l'exemple des apôtres. Que nous disent les actes des apôtres? Que nous dit saint Luc? Il nous dit qu'après l'ascension de notre Seigneur, les apôtres se sont réunis pendant 10 jours au Cénacle. Et là, que faisaient-ils? Ils étaient persévérants dans la prière. Une prière prolongée, une prière profonde, les apôtres faisaient oraison. Quel est le résultat de cette oraison? La Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les apôtres, et eux qui étaient des âmes faibles, des âmes plus ou moins pécheresses, ils deviennent saints. Saints, mais d'une sainteté tellement éminente qu'ils sont comme une garantie par rapport au péché grave, ils sont affermis dans la vertu, affermis dans la grâce, et qu'ils deviennent vraiment apôtres. Ils vont sortir, ils vont prêcher, et ils vont établir l'Église dans le monde, sans avoir de crainte face à la persécution, et tous vont verser leur sang, à l'exception de saint Jean. Donc on voit les deux merveilleux fruits de l'oraison, ce sont tout simplement, en définitive, la sainteté et l'apostolat. La sainteté et l'apostolat. Saint Jean de la Croix disait « Une seule âme qui s'élève jusqu'à l'union transformante, c'est-à-dire le résultat ultime de la vie d'oraison qui nous unit à Dieu et nous transforme en notre Seigneur, voyez, une seule âme qui s'élève jusque-là est plus utile à l'Église qu'une multitude d'autres qui s'agitent dans l'action, voyez, qui bougent beaucoup, mais qui finalement ne sont pas unis au bon Dieu. Il manque cette vie intérieure qui donnerait du fruit à l'apostolat. » Voilà ce que nous dit saint Jean de la Croix. Alors, je voudrais que nous retenions en particulier deux paroles de notre Seigneur à ses apôtres à la dernière scène où l'on voit cela. D'abord, notre Seigneur leur dit « Demeurez en moi et moi en vous. » L'oraison, c'est cela, ce cœur à cœur. « Demeurez en moi et moi en vous. » Notre Seigneur leur demande cette oraison. Et il ajoute « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » L'apostolat, eh bien, portera autant de fruits que l'âme sera unie au bon Dieu, à notre Seigneur. Si nous voulons faire du bien ici-bas, eh bien, pratiquons l'oraison. Un des premiers ministres généraux des Capucins disait « Un religieux vaut ce que vaut son oraison. » Et ça, voyez, on peut le dire aussi de tout chrétien. Voilà. Plus une âme est unie au bon Dieu par une prière profonde, intense, et bien plus cette âme sera sainte et apôtre. Alors, une conclusion maintenant et puis un encouragement. Padre Pio, voyez, qui avait compris que, comme il disait, seule la prière est capable de transformer le monde. Seule la prière est capable de transformer le monde. Il disait, en conséquence, je ne veux être qu'un pauvre moine qui prie. La prière, c'était toute sa vie. C'était toute sa vie. Tout était là pour lui. Le reste, les confessions, même les messes, je dirais, voyez. La prière, c'était toute sa vie. Je ne veux être qu'un pauvre moine qui prie. C'était sa grande et principale occupation. Et parce qu'il a été généreux et persévérant, voilà, eh bien, il est devenu un très grand saint. Et il recommandait, bien sûr, l'oraison à ses fils spirituels qui recouraient à lui. Alors moi aussi, je vous encourage à cette pratique de l'oraison. Vous en comprenez l'importance. Et si jamais vous souhaitez un petit support pour résumer un peu cette conférence, eh bien, j'ai laissé à M. Le Floch un petit fascicule, voilà, sur l'oraison qui pourra vous être imprimé selon vos désirs, qui explique très facilement, très simplement, puisque ça s'adresse à l'origine à des adolescents, eh bien, la pratique de l'oraison. Donc avec la pratique de l'oraison quotidienne, eh bien, pour répondre à ce qu'on vient de dire dans l'introduction, la vie chrétienne devient possible. Le devoir d'État n'est plus insupportable. Les croix de chaque jour, voilà. Tout cela comme on va le faire en union avec notre Seigneur, ce sera même facile. Saint Paul disait « Je puis tout en celui qui me fortifie ». C'est très beau de voir le pendant de ces deux paroles de la Sainte Écriture. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et Saint Paul qui dit « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Parce que Saint Paul est ancré en notre Seigneur par la prière, par l'oraison. Aucune tentation ne pourra nous désarçonner. Si on tombe, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment unis au bon Dieu par la prière. Saint Augustin disait « La prière est la forteresse des âmes, elle est le supplice du démon. » Et Saint Paul, voyez, eh bien, défiait toutes les créatures de pouvoir le séparer de l'amour du Christ. Alors je terminerai par deux citations un petit peu longues mais très belles, voilà, pour finir de vous persuader de l'utilité et de l'importance de l'oraison. La première citation est de Saint Bonaventure, qu'on appelle le docteur séraphique, c'est un franciscain qui a vécu dans le siècle de Saint François, à la même époque que Saint Thomas d'Aquin. Voilà ce qu'il disait. Si vous voulez supporter patiemment les adversités, soyez homme d'oraison. Si vous voulez surmonter les tentations et les épreuves, soyez homme d'oraison. Si vous voulez fouler aux pieds les affections dépravées, soyez homme d'oraison. Si vous voulez déjouer les ruses de Satan, éviter ses embûches, soyez homme d'oraison. Si vous voulez vivre dans la joie au service de Dieu, suivre la route du labeur et de la mortification, soyez homme d'oraison. Si vous voulez vous exercer à la vie spirituelle et ne vous souciez plus des désirs de la chair, soyez homme d'oraison. Si vous voulez que votre cœur soit viril et constant, qu'il s'affermisse dans son dessein d'obéir à Dieu, soyez homme d'oraison. Si vous voulez extirper les vices et vous imprégner des vertus, soyez homme d'oraison. Si vous voulez parvenir à la contemplation des choses célestes, soyez homme d'oraison. Cherchez avant tout à devenir homme d'oraison. L'oraison vous procurera tous les biens. Elle vous fera posséder Dieu en cette vie et en l'autre. Et la deuxième citation, j'avais déjà évoqué à la dernière conférence. La conférence était sur la sainteté et celle-ci sur l'oraison. Et comme il y a un parallèle entre les deux, elle convient pour les deux conférences. Et bien, c'est cette citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Après avoir appelé qu'Archimède cherchait un levier et un point d'appui pour soulever le monde, elle ajoute « Ce qu'il n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, eh bien les saints, eux, l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, et pour levier, l'oraison, qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Alors à nous maintenant de soulever le monde, en devenant des hommes d'oraison. » Je vous recommande aussi un livre juste pour vous aider dans la vie spirituelle en général, que je lisais ces derniers jours, que je trouvais très profond et en même temps très simple. C'est pour ça que je me permets de vous le conseiller. Souvent, on a besoin justement de quelque chose de simple. Eh bien, c'est un itinéraire spirituel. C'est un livre qui s'intitule « Le don de soi » par le révérend Père Schrivers, je ne sais pas si je prononce très bien, voilà, qui a été édité récemment aux éditions Clovis, qui est vraiment très très bien et qui donne bien des réponses pour la vie spirituelle en général et qui traite aussi en partie de l'oraison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... C'est clair.
je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit exemple, parce que ça reste quand même théorique, un tout petit exemple de méditation. Par exemple, vous avez parlé de la nativité. Donc, si vous pouvez prendre l'exemple sur ça, de comment on peut méditer.
Oui. Là, dans le tableau, par exemple, de la crèche, hein, dans le tableau de la crèche, eh bien, je prends ce passage de l'Évangile. Vous voyez, par exemple, dans l'Évangile, pour la naissance de notre Seigneur dans la crèche à Bethléem. Et je vois, par exemple, que le Fils de Dieu, notre Seigneur, a voulu naître dans une étable, donc dans la pauvreté. Donc, déjà, le fait que le Fils de Dieu s'incarne, se fasse petit enfant, voilà, si proche de nous, déjà, ça va nous exciter, par exemple, à la reconnaissance. Merci, mon Dieu, d'être venu vers nous, voyez. Donc, un acte de reconnaissance, un mot de reconnaissance. Après, eh bien, on peut faire différentes considérations. Si c'est on va considérer la pauvreté de notre Seigneur, et on va dire, ben, moi, Seigneur, je suis attaché à beaucoup de choses, aidez-moi à m'en détacher, au moins de cœur, voilà. Ou encore, Seigneur, vous avez, dès votre enfance, souffert du froid, et bien, moi, dès que j'ai une petite souffrance, je ne sais pas la supporter, je cherche toujours mon confort, vous voyez. Donc, je vais essayer davantage offrir, bien, quand j'aurai des occasions de sacrifice, vous voyez. Donc, des considérations, vous voyez, qui vont nous porter à faire des actes d'amour, voilà, à demander des grâces, et puis à nous corriger, à nous améliorer. Voilà, on peut aussi considérer encore d'autres choses, hein, dans ce mystère. Par exemple, on peut dire, Seigneur, quand vous venez à moi dans la communion, est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu dans une crèche froide, pas très bien préparée pour vous accueillir? Voilà. Donc je vais essayer de mieux préparer mes communions. Vous voyez, ce genre de considération, hein. Ça c'est la méditation. Donc en général, les livres de méditation font en général ce genre de considération un petit peu, pour nous donner un peu des idées, pour nous soutenir. Et après, bien, voilà, on peut soi-même trouver des choses.
J'ai une question, mais cette question, c'était un ami qui m'a demandé hier, quelle est la différence entre un disciple et un apôtre?
Un disciple et un apôtre. Alors, disciple est un mot qui est plus général, mais le mot apôtre est réservé aux douze disciples qui étaient les plus proches de notre Seigneur, qui étaient vraiment le noyau principal, à ceux à qui il parlait avec plus d'intimité, il leur révélait plus de choses, parce que c'était sur eux qu'il allait fonder son Église, surtout. Donc les apôtres, voilà, ont eu cette charge spéciale vraiment d'établir l'Église, c'était les premiers évêques.
Il y avait un mot un peu difficile à entendre, j'aurais aimé que vous reveniez de façon la plus positive possible. Mortification, on entend mort vide. Alors, comment faire pour s'y tourner dans la joie?
Oui, mais la mortification, il y a toujours un aspect effectivement de mort. Hein. Saint Paul disait « je meurs tous les jours ». Je meurs tous les jours, quotidien mourir. Ça veut dire qu'en fait, ben, on a des tendances, voilà, des tendances qui ne sont pas pour le bien, qui nous portent plus pour le mal, qui sont déréglées et qu'il faut rectifier. Donc, une façon d'envisager la mortification de façon plus positive, c'est surtout de voir les fruits qu'elle va porter. Voyez, en définitive, c'est qu'elle va nous aider à avoir une vie plus raisonnable, puis une vie plus conforme à ce que Dieu attend de nous. Mais forcément, la mortification aura toujours un aspect pénible, parce que le sacrifice est quelque chose qui est pénible. Il faut aller contre une tendance. Voilà. Le péché, c'est justement consentir à ces tendances et se laisser aller à ces tendances déréglées. La mortification consiste à rétablir, voilà, l'ordre en nous-mêmes, c'est-à-dire à savoir que que notre sensibilité soit bien réglée par notre raison et que notre raison elle-même soit bien soumise à la volonté de Dieu. Voilà. Donc il faut rétablir l'ordre en fait. Voilà. Et là en fait, ce qui peut nous encourager à la mortification, on peut trouver différents motifs. Donc déjà on voit ici l'utilité par rapport à la raison, ça va m'aider à pouvoir donner mon cœur au bon Dieu et puis à pouvoir prier plus facilement. D'autres aspects, eh bien, la mortification offerte par amour pour Dieu peut aussi servir au salut des âmes. Je peux l'offrir pour une intention particulière, l'offrir pour une âme purgatoire, pour qu'elle soit délivrée plus rapidement de ses supplices, ou alors pour la conversion d'un pécheur, comme les enfants de Fatima faisaient. Puis surtout le motif de l'amour de Dieu, très sainte Vierge qui demande justement ses sacrifices. Mais de toute façon, la vie chrétienne voilà, est une vie crucifiée. Notre modèle, c'est notre Seigneur sur sa croix. La seule chose qui peut rendre la croix supportable et je dirais même aimable, c'est justement l'amour. D'où l'importance, vous voyez, de l'oraison. Si on prie pas, si on rentre pas en contact avec Dieu, si on donne pas son cœur à Dieu, si on grandit pas dans la charité, la croix nous paraîtra toujours insupportable. Le seul moyen de pouvoir porter la croix, c'est d'aimer. Si on aime, l'amour rendra la chose possible. Souvent, on identifie un petit peu souffrance égale malheur. Et c'est faux. Souffrance moins l'amour de Dieu égale malheur. Souffrance plus l'amour de Dieu égale au contraire bonheur, la joie spirituelle. Il y a un très beau passage dans la vie de Saint François, il appelle la joie parfaite. Qu'on appelle la joie parfaite, où on voit Saint François qui marche dans la neige en plein hiver avec un frère derrière lui, frère Léon, et il se retourne vers frère Léon en lui disant frère Léon, si tous les frères mineurs, c'est-à-dire les franciscains, devenaient de grands saints, voilà, eh bien là n'est pas la joie parfaite. Continue à marcher, il se retourne une deuxième fois, frère Léon, si tous les frères mineurs faisait des miracles à tour de bras, guérissait des malades, ressuscitait les morts, là n'est pas la joie parfaite. Si, puis une troisième fois, si les frères mineurs se répandaient dans le monde entier, prêchaient, convertissaient des âmes qui devenaient chrétiennes, là n'est pas la joie parfaite. Et continue comme ça, toute une litanie de propositions, là n'est pas la joie parfaite, là n'est pas la joie parfaite. Au bout d'un moment, frère Léon se lasse et puis lui demande, mais enfin, Père, qu'est-ce que c'est la joie parfaite? Et saint François lui dit, eh bien tu vois, quand nous allons arriver devant le couvent vers lequel nous tendons, alors que c'était l'hiver, on est froid, la famille, tout ça, si nous frappons à la porte et que le frère, au lieu de nous ouvrir, ne nous reconnaît pas et nous laisse à la porte dehors dans le froid, la famine, voilà. Si nous supportons ça par amour pour notre Seigneur, alors là est la joie parfaite. Et si nous continuons à frapper à la porte et que ce frère sort avec un bâton à la main, nous roue de coups et nous plonge dans la neige, si nous supportons ça par amour pour notre Seigneur, sans ressentiment envers ce frère, là est la joie parfaite. Vous voyez, les saints, ils trouvaient leur joie dans la croix. Pourquoi? Parce que quand on aime notre Seigneur, on veut être uni à lui, et notre Seigneur est sur la croix. Padre Pio disait, l'amour qui n'est pas nourri de la croix n'est qu'un feu de paille. Il faut vraiment se persuader de cela, que le christianisme, il n'y a pas de christianisme sans la croix. Ça, c'est pas possible.
Voilà. Merci encore.
Allons faire une prière. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Merci beaucoup pour votre attention.